Et c'est justement de ça que le professeur Paulin va nous parler ce soir, de la question des divisions ou de l'union entre les pouvoirs spirituels et temporels dans les sociétés.
Oui, d'une certaine manière, ce drapeau a quelque chose de tout à fait remarquable. Le symbole qui l'illustre, enfin, il a plusieurs significations probablement, mais il y en a au moins une qui m'apparaît tout d'un coup, c'est que vous voyez conjoint dans les quatre coins les fleurs de lys du pouvoir qui sont les symboles de la monarchie en France, pas qui sont l'écusson de l'emblème de la monarchie en France, et le Sacré-Cœur au centre, qui est le symbole du pouvoir spirituel. Ce drapeau unit le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, pas d'une manière, qui est évidente d'emblée, et qui comporte cette subtilité supplémentaire de, si vous regardez l'orientation des fleurs de lys, de symboliser non seulement l'union du spirituel et du temporel, mais la subordination du temporel au spirituel, puisque les fleurs de lys sont orientées vers le Sacré-Cœur comme leur centre. Alors, c'est précisément de ces problèmes que nous allons parler ce soir. Il s'agit évidemment de problèmes qui sont quelque peu sortis de l'univers habituel des philosophes politiques contemporains. L'idée même de parler du pouvoir spirituel doit probablement semblerait à un public, un vaste public, comme une question tout à fait curieuse, pour dire le moins, sinon proprement aberrante. En tous les cas, je peux vous dire que elle doit paraître telle à une bonne partie de mes collègues, sinon à leur très grande majorité. Et pourtant, je pense que les considérations sur le pouvoir spirituel, que la réflexion sur le pouvoir spirituel est une chose absolument nécessaire, pas cruciale, vitale, et que l'une grande partie des difficultés politiques, des difficultés qui traversent l'existence politique des sociétés contemporaines qu'elles nous ont pu faire allusion hier soir, tiennent à l'ignorance de ce problème crucial, à l'ignorance de la nécessité d'un pouvoir spirituel. Alors, ce que je voudrais faire ce soir, c'est, en abordant ce thème étrange et dont je pense que peu de mes collègues dans l'université, auquel je pense que peu de mes collègues s'intéresseraient, je voudrais faire deux choses. D'une part, vous montrer la nécessité d'un pouvoir spirituel, une nécessité vitale, une nécessité politique, et deuxièmement, essayer très rapidement de donner quelques-unes des caractéristiques essentielles de ce pouvoir spirituel tel qu'il doit être pour répondre à sa fonction, c'est-à-dire en réalité pour assurer aux sociétés humaines leur existence naturelle, leur existence la plus conforme à ce qu'elle doit être. Certains d'entre vous étaient là dans les séances précédentes. Je rappelle très rapidement, signaler que pour moi, la philosophie est une compréhension de ce qui existe. Enfin, la philosophie n'est pas la construction d'une cité des nuées, comme on le dit trop souvent. La philosophie, c'est un effort pour dégager les conditions de possibilité d'une société qui fonctionne. Eh bien, le pouvoir spirituel est précisément l'une de ces conditions. L'analyse philosophique est nécessaire pour dégager ce qu'il doit être, ce qu'il doit nécessairement être au sein d'une société qu'on peut appeler, si vous voulez, pour aller vite, naturelle. Alors, partons du plus général, partons de la problématique qui me paraît la plus accessible, la plus simple à comprendre. Le sujet de ce soir porte sur le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, ou la nécessité du pouvoir spirituel et ses rapports avec le pouvoir temporel. Nous posons ce soir un problème politique. Nous posons un problème de réflexion politique, et je crois que ce problème Je retrouve des réflexions émises l'autre jour à propos du problème du fédéralisme. Je crois que le problème politique, dans sa plus grande généralité, dans sa plus grande simplicité, consiste à essayer... consiste dans le fait que l'union politique entre l'homme, dans politique il y a police, il y a cité, le problème politique naît du fait qu'une cité, une union des hommes, n'est pas une chose qui est, si vous voulez, automatique. Une cité n'est pas une réalité spontanée. Ah, une cité... comporte nécessairement, me semble-t-il, quelque chose d'artificiel. Une cité, c'est quelque chose qui est une réalité qui est dans une certaine mesure artificielle. Vous pourriez me dire aussitôt, mais c'est la tradition dit depuis 21 siècles exactement l'inverse. Enfin, est-ce que ça veut dire que, comme le disent tous les modernes, l'homme n'est pas un animal sociable ou n'est pas un animal sociable? Pas du tout. Quand je dis que, et c'est ça qui fait le problème politique, enfin, quand je dis que toute cité, la construction d'une cité comporte quelque chose d'artificiel, je n'entends pas dire, loin de là, que l'homme n'est pas fait pour vivre en société, car s'il n'était pas fait pour vivre en société, il n'y aurait pas non plus de problème politique. Son insociabilité serait définitive, et la question serait réglée. L'homme n'étant pas fait pour rien se ce n'est pas la peine de le faire vivre, d'essayer de le faire vivre, ça ne peut que échouer à toutes les fois. Par conséquent, d'une certaine manière, au contraire, la position du problème politique, enfin, le problème politique suppose que l'homme est dans une certaine mesure sociable. Mais, ce qu'il faut bien reconnaître, c'est pour ça qu'il y a un problème politique, c'est qu'il n'est pas sociable, une sociabilité qui se développe de manière tout à fait automatique, spontanée et instinctive. L'homme est un milieu. L'homme est un animal qui est fait pour être sociable, mais qui ne l'est pas spontanément, immédiatement et instantanément. L'homme est un milieu entre l'insociabilité et la sociabilité, étant entendu que sa finalité, c'est la société. Alors, ce qui veut dire qu'il y a, en somme, et c'est ce qui fait l'existence du problème politique, c'est ce qui est la condition sine qua non sans laquelle il n'y aurait pas de problème politique. Enfin, le problème politique se pose parce qu'il y a dans l'homme une propension à la société, mais en même temps quelque chose qui y résiste. Si les hommes ne résistaient pas, il n'y aurait pas de politique, il n'y aurait pas d'art de la cité. Et je vous fais remarquer que j'aurais pu dire tout il y a un instant déjà que Aristote ne disait rien d'autre malgré les apparences. Aristote qui dit l'homme est un zoon politikon vous dit en même temps attention, attention, le pouvoir du chef politique n'est pas le pouvoir du chef de famille. Le père a une autorité naturelle sur ses enfants, il peut y avoir une autorité naturelle du chef politique sur les hommes qu'il commande, mais ne confondons pas les deux. La famille est une entité absolument naturelle pour l'homme. La politique, c'est une union de famille. La cité est une union de famille. Et cette union n'est pas une chose aussi naturelle que la famille. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas en même temps. Bon. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que, quelle que soit la période d'ailleurs de l'histoire intellectuelle de l'Occident que l'on considère, il me semble que on a toujours considéré, et les modernes encore plus d'ailleurs d'une certaine manière, c'est même ce qui rend le problème insoluble pour eux, mais enfin, même déjà dans la tradition classique, hein, le problème politique, c'est, je voudrais reprendre ici les termes d'Aristote parce qu'ils sont, il me semble que c'est, je cite de mémoire, enfin c'est une idée, s'il ne le dit pas en une formule, il le dit en quelques pages, de toute manière. Ça, la politique est un problème parce qu'il s'agit de commander à des hommes libres. Il s'agit de faire obéir des hommes dont la nature est pourtant en même temps libre. Les hommes ne sont ni des esclaves ni des animaux qu'il faut forcer à obéir ou qui obéissent spontanément ou qui obéiraient comme des fourmis dans une société de fourmis. Les hommes sont l'un et l'autre. pas, l'homme est un milieu entre deux extrêmes, ce qui fait que, incontestablement, il y a une nécessité de pouvoir. La politique, c'est la reconnaissance, la réflexion politique commence parce que le caractère inéluctable, les journalistes aujourd'hui diraient incontournable, de la nécessité d'un pouvoir de l'homme sur l'homme est l'idée première, n'est-ce pas, qui préside à la réflexion politique. Alors, eh bien, toute politique, une politique, c'est la politique, c'est l'exercice d'un pouvoir. C'est l'exercice d'un pouvoir de l'homme sur l'homme. Mais vous comprenez d'emblée tout ce que je vais vous dire. Et les idées philosophiques sont à la fois, peuvent être exprimées en des formules très simples, mais les comprendre demande de grands discours. Mais d'une certaine manière, vous devez pouvoir deviner tout ce que je vais vous dire ce soir. Puisque si vous tombez d'accord que il n'y a pas de société entre les hommes sans intervention d'un certain pouvoir, parce que les hommes sont des êtres qui sont faits pour vivre en société mais qui n'y vivent pas mécaniquement. Si vous comprenez que donc l'application d'un certain pouvoir est nécessaire, toute la question est de savoir de quelle nature doit être ce pouvoir pour soumettre des hommes qui doivent pourtant en même temps demeurer libres, demeurer des hommes qui ont pourtant une dignité d'homme. Le problème politique profond, il est là. Comment faire pour appliquer à des hommes un pouvoir sans détruire leur qualité et leur dignité d'homme? Alors, ce problème est si délicat, nous allons voir trois temps successifs, trois réponses successives ou trois collections de réponses. J'ai essayé de regrouper en quelques mots, au fond, l'héritage de 20 siècles de philosophie. Vous avez d'abord ce problème est si délicat que vous avez d'abord les gens qui vous disent « Mais c'est pas vrai, il n'y a pas besoin de pouvoir. » Il y a les gens qui vous disent « Mais non, tout ça, d'emblée la réflexion est faussée, n'est-ce pas ? Le pouvoir est une création humaine, une création vicieuse d'ailleurs, une création d'hommes affamés de pouvoir. Mais la société doit pouvoir fonctionner sans pouvoir. » Vous avez, et je donnerai deux exemples de cette première attitude. La première, je ne me donnerai même pas la peine de la réfuter parce que elle n'est pas absurde, mais elle suppose le problème résolu. Tout le monde a entendu, vous avez tous entendu parler, ce n'est pas une idée qui date du 19e ou du 20e siècle, ça remonte à la sagesse grecque, vous aviez déjà des hommes qui disaient ça. Vous avez ce qu'on pourrait appeler, ça couvre aussi bien les révolutionnaires russes de la fin du 19e que les cyniques, que les sages du cynisme de l'Antiquité. Vous avez, au fond, l'attitude qu'on pourrait résumer, synthétiser sous le nom d'anarchisme. Les anarchistes sont des gens qui vous disent que les hommes peuvent vivre en société sans aucun pouvoir, sans qu'il soit nécessaire qu'un pouvoir les unisse. Mais évidemment, l'anarchisme, c'est peut-être très joli, mais l'anarchisme est une utopie dans la mesure où il se donne, justement, en quelque manière, un homme parfait, un homme parfaitement bon, pas un homme qui n'est pas précisément un homme au fond plongé dans la vie temporelle. Mais alors, je donnerai un deuxième exemple qui me paraît beaucoup plus intéressant parce qu'on on le perçoit moins d'ordinaire. Et pourtant, c'est une idée alors là qui travaille sérieusement nos contemporains. Vous aviez une deuxième forme d'anarchisme, beaucoup moins connue, mais très très puissante de nos jours. Les anarchistes n'ont jamais attiré que, au fond, quelques rêveurs, et puis l'anarchie a toujours fini dans la violence et l'explosion des bombes. Pas que ce soit en Espagne ou en Russie au XIXe siècle. Mais vous avez une deuxième école, Il n'y a pas de bombes là, ou du moins on ne les voit pas exploser, ou on ne les entend pas exploser. C'est une école qui est très répandue de nos jours. C'est l'école des économistes. Je veux dire, que vous disent depuis le XVIIIe siècle environ tous les grands doctrinaires de l'économie libérale? Que vous disent des gens comme Adam Smith, par exemple, pas sans compter tous leurs descendants? Eh bien, ils vous disent, il n'y a pas besoin de pouvoir politique dans une société. La politique, c'est une chose mauvaise. La politique, ce sont des hommes affamés de pouvoir qui l'ont inventé, ce sont par exemple les rois. Ah, ce sont les seigneurs, ce sont ceux qui ont mis l'épée à la main pour dominer leurs semblables. Mais c'est fini, ces temps-là. Nous sommes parvenus au temps de la société industrielle. Et la société industrielle, j'ai prononcé il y a un instant le nom d'Adam Smith, mais vous avez des tas d'autres noms. Comme nous sommes au Canada français, comme nous sommes au Québec, on peut citer celui d'Auguste Comte. Vous avez tous entendu parler du positivisme et d'Auguste Comte. Et qu'est-ce qu'il dit Auguste Comte? Il dit le temps des guerres, le temps des hommes d'armes, le temps de... c'est fini. Maintenant, nous sommes entrés dans le temps des producteurs. Et les producteurs, ils n'ont pas besoin de pouvoir. Les producteurs, et... alors pourquoi? Alors peu importe le détail des... Je ne peux pas rentrer dans le détail de la diversité des doctrines, mais enfin, en gros, l'idée est toujours la même. Pas. Soit qu'on se donne un peu plus d'organisation technique, ce sera, si vous voulez, pour aller vite, enfin, ce sera la technocratie qui organisera les hommes. Soit que, pour reprendre le droit fil de l'économie libérale, on vous dise, mais vous avez la loi de l'offre et la demande, vous avez la loi des débouchés de Jean-Baptiste Say, vous avez un certain nombre de lois naturelles qui régissent les rapports des hommes sans qu'il soit besoin de faire intervenir aucun pouvoir politique. Vous avez les gens qui vous disent, mais nous en avons parlé hier, avant-hier, on peut en parler chaque fois, c'est toujours la même idée, n'est-ce pas? Vous avez les gens qui se bornent, au fond, à vouloir chacun s'enrichir, et pour cela, ils entrent dans des relations d'échange les uns avec les autres, et ces relations d'échange se nouent tout naturellement, et les lois de l'échange sont des lois naturelles. Vous voulez... Je vous propose ma montre, je vous demande votre stylo. Ça vous plaît, ça vous plaît pas? Vous voulez bien? Parfait. Vous voulez pas? Tant pis, je vais la proposer à quelqu'un d'autre. Et voilà. En quoi y a-t-il besoin de pouvoir? Je vous propose ma montre, vous me donnez votre stylo, vous ne le donnez pas. Pas besoin de pouvoir. Les hommes sont liés par des lois naturelles. Les hommes sont spontanément liés, au fond, par la force des choses. Et il n'est la seule chose qu'il faille éviter, et c'est pour ça qu'il faut des économistes, des espèces de savants, la seule chose qu'il faille éviter, c'est de fausser le jeu naturel des choses. Le pouvoir est particulièrement mauvais parce qu'il fausse les choses. Parce qu'il fausse, et c'est surtout dit en principe, pas dit en théorie, l'économiste libéral, surtout, que l'État n'intervienne pas. Pas de pouvoir. Que l'État laisse les gens se débrouiller et se faire concurrence librement les uns aux autres. Surtout pas d'intervention de l'État. Vous avez probablement entendu parler d'un économiste ou d'un sociologue qui a, après avoir été très connu, oublié, est revenu sur le dessus des vagues, l'école autrichienne, von Hayek, von Mises. Bon, qu'est-ce qu'il vous dit? Je me souviens d'avoir lu il y a quelques années encore, d'avoir retrouvé von Hayek. Qu'est-ce qu'il vous dit? Quel est le pire ennemi de la société, de la sociabilité humaine? C'est ce qu'il appelle le constructivisme. Il s'agit des sociétés, c'est l'idée que les hommes doivent construire leur société. Voilà le mal, dit Hayek. Voilà le mal. Laisser les choses. Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est sur cette base qu'il élabore une critique du socialisme. Le socialisme ou du communisme, enfin, qui justement lui paraît, voilà, la route de la servitude, vous avez peut-être entendu parler de cet essai célèbre, The Road to Serfdom, et la servitude tient à ce que précisément, on force la nature des choses, on ne veut pas laisser les lois naturelles jouer. Bon. L'économie, vous tenez encore une autre expression qui illustre ce que je veux dire, la fameuse main invisible. Vous avez tous entendu parler de la main invisible d'Adam Smith. Ben, la main invisible, c'est l'absence de pouvoir. C'est le pouvoir qui n'en est pas un. La main invisible, c'est l'argument, c'est l'idée qui permet de croire que l'on peut se passer d'un pouvoir dans les sociétés humaines, qui a besoin de pouvoir politique. Bon. Comme ce n'est pas mon sujet, je m'arrête là. Je veux simplement vous signaler, par conséquent, vous voyez qu'on le sache ou qu'on en soit conscient ou pas, une résistance considérable à l'idée que le pouvoir est une chose inévitable. Je vous rappelle encore que le marxisme prévoit le dépérissement du pouvoir politique. La société idéale est sans pouvoir. L'anarchisme est vivant. Je ne perdrai pas beaucoup de temps à critiquer la doctrine ou l'attitude. Je me bornerai simplement, si vous voulez, un argument critique, à dire que tout ça, encore une fois, c'est comme l'anarchisme pur et dur, comme l'anarchisme pur et simple, c'est très joli. Seulement, malheureusement, pour la validité de cette doctrine, il se trouve que l'homme a la capacité de tourner les lois naturelles en question. Vous savez très bien que l'un des schémas, l'un des principes, l'une des conditions de base du fonctionnement d'un système libéral, c'est, entre guillemets, la concurrence pure et parfaite. Le système marche si les hommes demeurent, si vous voulez, dans un état d'équilibre réciproque à peu près égal. Mais chacun n'a évidemment qu'un souci, c'est de détruire l'équilibre pour profiter de sa force. En somme, vous savez tous qu'en 19, je l'ai déjà dit l'autre jour, je crois, en 1910 ou 11, les États-Unis ont éprouvé le besoin de promulguer des lois antitrust, des lois anti-monopole. Le monopole, c'est précisément l'effet du détournement de la loi naturelle par la liberté humaine. Là encore, on a affaire à une vision purement utopique et en réalité, finalement, et ça c'est ce que j'ai dit hier soir, n'est-ce pas, finalement, cet état de non-pouvoir apparent, cette manière d'écarter le politique, n'est-ce pas, cette volonté d'en prononcer la mort, aboutit à quoi? Aboutit à instaurer des relations de force entre les hommes, des relations de force que plus rien ne règle, parce que précisément, ou alors que, justement, qui sont réglées par une intervention sans cesse grandissante de l'État dans le détail de l'activité économique individuelle, parce qu'on s'aperçoit que cette activité laissée à elle-même n'aboutit à une forme de guerre des hommes contre les hommes, n'est-ce pas? Bon, alors, voilà la deuxième attitude. Il y a encore une troisième attitude, là je peux passer très vite aussi, je me borne au squelette, je me borne à l'idée principale. Il y a une troisième attitude des gens qui ne veulent pas de pouvoir. Ben, vous la connaissez, on s'en aperçoit pas non plus, là aussi c'est assez bien, mais c'est au fond l'idée première de la doctrine, et on va voir réapparaître une idée dont j'ai parlé hier, avant-hier, dont je parle toujours, n'est-ce pas, mais sous un angle légèrement différent, avec un éclairage justement différent. Il y a une autre idéologie qui sévit de nos jours et qui est une idéologie d'exclusion de tout pouvoir. C'est la démocratie. La démocratie est un système qui prétend éliminer en réalité tout pouvoir. Partout, dit Rousseau quand il commence le contrat social, l'homme est né libre et partout il est dans les fers. Le contrat social, c'est un moyen de lever les fers. La démocratie prétend être un système qui permet à une société d'exister sans application du pouvoir politique. Il s'agit, je l'ai cité la formule de Rousseau, j'y reviens parce que pour ceux qui n'étaient pas là, le problème du contrat social, dit Rousseau, c'est de faire en sorte que les hommes, en s'unissant à tous, n'obéissent qu'à eux-mêmes et demeurent aussi libres qu'auparavant. Il n'y a pas de pouvoir. La démocratie tout entière a pour idéal l'anarchie. En réalité, l'idéal de notre époque, c'est l'anarchie. L'économie, la démocratie sont les dimensions essentielles de notre époque, et ces deux idéologies, ces deux attitudes combinées, ont pour fin l'une et l'autre l'exclusion du pouvoir. Bon, je n'ai pas besoin, ou du moins je pourrais développer ce thème longuement, je me borne à signaler que de même que pour l'économie, l'illusion est complète pour la démocratie. La démocratie, système qui prétend libérer les hommes, les asservit en réalité. Et la démocratie, qui est un système où en principe les hommes sont appelés à se gouverner eux-mêmes, instaure en réalité le pouvoir, un pouvoir de plus en plus oppressif, un pouvoir de plus en plus astreignant, un pouvoir de plus en plus terrifiant de certains hommes sur d'autres, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui détiennent le pouvoir dans une société démocratique, et ce pouvoir est astreignant et terrifiant, je vais bien employer le mot, l'adjectif à dessein. Pourquoi est-il terrifiant? Parce qu'il est pire que tous les autres pouvoirs que les sociétés humaines ont pu connaître, parce qu'il est réputé être le pouvoir de tous. Il est réputé n'être le pouvoir de personne. Les gens qui sont au pouvoir peuvent tout faire, parce que ce n'est pas eux-mêmes qui commandent, ils sont les délégués du peuple. Ils ne sont que la volonté du peuple. Autrement dit, n'importe quel crime est d'emblée et avant tout, et avant même son application, est légitimé parce que l'individu qui le commet est validé, avalisé par la volonté populaire. Je ne sais pas ce qu'il en est au Canada, mais je peux vous dire qu'en France, et qu'ailleurs en Europe en général, en Italie, dans tous les pays démocratiques, depuis quelques années, il s'est développé une corruption tellement fantastique qu'on a fini par s'en apercevoir. Mais cette corruption a été étalée au grand jour et au fond, rien ne se passe, rien ne change. Vous avez des voleurs qui gouvernent, des voleurs qui sont, je pourrais vous montrer des documents juridiques, qui mettent en accusation le chef de l'État français, le président de la République, qui l'accuse d'avoir détourné de l'argent, c'est un document établi par un juge, par un magistrat français, rien ne se passe. Et pourquoi rien ne se passe? Parce que le pouvoir de cet homme n'est pas le sien, c'est le pouvoir du peuple. On peut tout faire, on est couvert d'avance. On ne peut pas être un criminel, puisqu'on est la volonté du peuple. Autrement dit, et je reviens à mon propos, évidemment, cette absence de pouvoir est un leurre. Cette absence de pouvoir introduit en réalité un pur et simple tyrannie. Alors, deuxième point. Si on considère que dans ces conditions, le pouvoir est nécessaire, et qu'en tous les cas, il est inévitable, nous sommes parvenus au point de dire, ben voilà, on a proposé des théories, ils ont cessé de se réaffirmer. En réalité, des théories sont évidemment d'une faiblesse insigne et révèlent elles-mêmes leur propre faiblesse très rapidement dès qu'on cherche à les appliquer. Alors, le pouvoir, je reviens à ma question. La politique, ça consiste à faire obéir des... Enfin, la politique, c'est l'application d'un pouvoir, c'est l'exercice d'un pouvoir qui consiste à faire obéir des hommes sans cesser de leur reconnaître une capacité à la liberté, sans attenter à leur dignité. Alors à ce moment-là, et alors là, nous, ça devient plus intéressant, le problème se transforme. Le problème politique, et là, nous continuons à, vous allez voir que nous ne rentrons pas une seconde dans le monde moderne, mais une fois de plus, c'est le passé qui va nous éclairer. Le problème se transforme. Le pouvoir est inévitable. Il faut faire obéir des hommes qui doivent être pourtant libres. Alors le pouvoir, le problème politique, prend un aspect tout à fait différent. Il est vain d'essayer d'éliminer le pouvoir. On ne fait que le restaurer sous une forme cachée qui est encore pire. Alors, que faut-il faire? Eh bien, la solution du problème politique, deuxième manière, problématique beaucoup plus intéressante, Il ne s'agit pas d'éliminer le pouvoir, mais de faire que ce pouvoir soit juste. La justice est une dimension fondamentale de l'existence politique, et ça, depuis l'aube de la philosophie politique. J'ai mis très longtemps à comprendre une idée aussi simple, parce que justement les idées simples sont les plus difficiles à comprendre. J'avais appris scolairement que Platon, il y a 25 siècles, avait écrit un dialogue qui s'appelait La République, et dans lequel il disait, il y a une seule la valeur politique, la République, pas la cité idéale, c'est une cité bâtie sur la justice. Je me disais, c'est très joli, oh, c'est très honorable, tout le monde souhaite ça, mais enfin pourquoi? Qu'est-ce que vient faire la justice là-dedans? Eh bien c'est tout simple, c'est parce qu'en effet, la justice est ce qui permet de combiner beaucoup plus que, beaucoup mieux que les espèces de rêveries sur l'autogouvernement du peuple par lui-même, qui sont une fumée nocive. La justice est ce qui permet de concilier la liberté des individus et la liberté et l'existence d'un pouvoir politique, d'une autorité, et en même temps d'une liberté. Alors il faut trouver, n'est-ce pas, il faut trouver ce qu'est un pouvoir juste. Vous ferez remarquer au passage que c'est une chose très, enfin, tellement fondamentale, tellement évidente, d'une certaine manière, on n'en voit plus tout ce qu'elle peut avoir de surprenant. Et ce qui me surprit, encore j'y pensais en réfléchissant à cette conférence, je dois vous dire que c'est une chose qui me surprend, c'est que, au fond, quoi qu'on fasse, et qu'à quelque époque on ait vécu, et peut-être même encore à la nôtre, même s'il ne comprend plus de quoi il s'agit, il y a une espèce de miracle qui est sous-jacent à l'existence sociale, à l'existence de d'une cité, d'une communauté entre les hommes. Ce miracle, c'est que les hommes soient sensibles à la justice. Et qu'on peut faire obéir à un homme si on lui dit c'est juste d'obéir. C'est une chose très, très curieuse, vous savez, très remarquable. La justice, comme disait Platon, illumine le monde et illumine les hommes. S'il n'y a pas de justice, si la justice n'est pas cette idée éternelle qui luit au cœur de chaque conscience individuelle, ben, il n'y a plus qu'à désespérer, il n'y a plus qu'à changer de métier et aller pêcher à la ligne. Enfin, le fait que la justice parle à tous les hommes, c'est une chose quasiment surnaturelle. Mais nous allons y revenir et vous voyez dans quelle direction je me dirige. Donc, en quoi consiste la justice? Là encore, je voudrais vous faire une remarque au passage. C'est que nous avons un grand nombre de nos contemporains, si j'énonçais ces propos devant un aéropage de mes collègues, ils pousseraient aussitôt des cris d'orfraie, en disant voilà bien l'idée la plus dangereuse que nous ayons entendue depuis longtemps. Enfin depuis longtemps, parce qu'effectivement on ne la mentionne pas très souvent. Voilà bien une idée dangereuse par excellence. Et pourquoi? Eh bien parce que, disent-ils, et là, vous allez probablement reconnaître un certain nombre de vos contemporains, d'hommes politiques ou même de vos concitoyens. Il n'y a rien de plus dangereux, disent-ils, qu'une politique qui veut obéir à des hautes finalités morales. La politique doit rester neutre. Si vous voulez, pour traduire rapidement les choses dans un langage très journalistique, il n'y a rien de pire que la subordination d'une politique à une idéologie. Il n'y a rien de pire que les hommes qui entendent agir pour leur bien de leurs semblables. On ne leur demande pas tant. Et vous connaissez cette théorie, c'est la théorie libérale qui veut qu'au fond l'action politique soit, comme ils disent noblement, confinée dans les tâches régaliennes. La sécurité extérieure, la paix intérieure, on n'a pas besoin d'idées morales, surtout pas d'idées morales, il suffit d'avoir une bonne armée, et puis il suffit d'avoir une bonne police, puis que les gens respectent les lois à coup de contravention, n'est-ce pas, ou de peine juridique, et puis évidemment, il faut des gens pour distribuer les peines et les juger, il faut une justice, mais tout ça n'intervient absolument pas d'intervention d'une morale. Enfin, les gens qui veulent faire le bien de l'humanité, en général, ont fait son pire malheur. Je vous signale l'argument parce que vous l'avez sans doute rencontré, et je voudrais simplement dire que ça me paraît un des arguments les plus faux, les plus fallacieux que l'on voit étaler aujourd'hui dans les pages de la littérature à la fois la plus universitaire ou la plus journalistique. Enfin, c'est un argument absurde dans la mesure où il suppose d'une certaine manière que les fonctions régaliennes dont je parlais un instant, les fonctions de sécurité, sont des fonctions en quelque manière purement techniques. C'est le rêve de la technocratie. Hein? Comme si, ça ne supposait aucune espèce de prise de position morale. Bon, on doit faire régner la paix, mais c'est une question technique. Enfin, on prend des exécutants techniques, on prend de bons ouvriers. Hein? C'est comme ça qu'on essaie de construire l'Europe aujourd'hui. Enfin, c'est une des manières dont on essaie de construire l'Europe. Pas besoin de faire de morale. Hein? Il suffit de prendre des techniciens. Des gens qui sont formés dans les bonnes écoles, et puis ils feront régner la paix, ils feront régner l'ordre, ils donneront les lois qu'il faut pour assurer le développement économique. Bah, la prospérité économique se développera en suivant de ça. Bon, là encore, nous sommes en plein rêve, n'est-ce pas? Et de même que l'exigence de pouvoir ne peut disparaître, l'exigence de justice ne peut non plus disparaître. Car tout simplement, la technocratie est un autre leurre. Il n'y a pas des décisions purement techniques. Toute décision, c'est l'application d'un pouvoir. L'exigence de justice, l'exigence de moralité, ne peut pas cesser d'être, tout simplement, parce que le politique n'est pas... parce que le pouvoir ne peut pas disparaître du politique. Toute décision politique est une décision qui impose un certain comportement à d'autres hommes. Les hommes qui sont au pouvoir font plier d'autres hommes. Et ils ne peuvent pas les faire plier au nom de règles purement techniques parce qu'ils ne peuvent pas ne pas exercer un pouvoir. Il faut donc qu'ils le justifient. Bon, je ferme la parenthèse, cette idée peut parler, enfin pour moi ça me paraît très important parce que je sais que c'est un des grands dogmes de ceux qu'on peut appeler, si vous voulez, les modérés. Le modérantisme politique s'enracine dans cette attitude. Et ça me paraît une attitude essentiellement fausse. Vous avez dû vous faire traiter souvent, monsieur l'abbé, de fanatique. Eh bien, l'accusation de fanatisme provient de ce genre, entre autres, de ce genre de milieu. Qu'est-ce que nous avons besoin, n'est-ce pas, de considérations autres que purement techniques? Enfin, nous n'avons pas besoin de l'intervention de grandes idées. Enfin, ceux qui veulent appliquer des grandes idées sont en général des sectaires, des gens fermés, des gens étroits qui veulent imposer leurs idées. Nous ne voulons pas d'idées. La politique peut se passer d'idées. C'est faux. La politique ne peut pas se passer d'idées. Et quand on lui retire les bonnes idées, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Et à la place d'idées, vous avez l'idéologie. Et alors là, effectivement, c'est mauvais. Mais le contraire de l'idéologie, c'est pas l'absence d'idées, ce sont les bonnes idées. Excusez-moi, mais ça m'a donné une idée au passage. Je la note pour une autre... Bon, alors, question. Qu'est-ce que la justice? Comment définir la justice? Comment est-ce que le pouvoir peut être juste? Alors là, je dirais trois définitions. On peut retrouver très rapidement trois définitions. Je voudrais montrer qui sont, au fond, les définitions que l'histoire de la philosophie a pu développer. Et je voudrais montrer en deux minutes que ces trois définitions se condamnent elles-mêmes, comme se condamnent, je connais tout à l'heure, les théories qui prétendaient exclure le pouvoir de la société politique. J'ai commencé à quelle heure, monsieur l'abbé, pour ne pas... 7h40. J'ai commandé à 7h40. Bon, d'accord, c'est ça, très bien. Bon, alors, trois théories, me semble-t-il, ont dominé, en dehors de celles que nous examinerons après, ont dominé la pensée occidentale. Vous avez d'abord les gens qui ont si on prend les choses, enfin, je ne les cite dans le désordre du point de vue de leur intérêt, mais enfin, si on prenons l'ordre chronologique, si vous préférez. Vous avez les gens qui ont dit, c'est vrai, il faut une justice. Le pouvoir a tout intérêt à être juste ou à le paraître. Simplement l'ennui, c'est que cette justice, c'est pas très bien où elle est. En tous les cas, moi je la vois pas. Alors, que faire? Eh bien c'est très simple. Ne pouvant faire que la force fût juste, comme disait Pascal, ne pouvant faire plutôt que la justice fût forte, on va faire que la force soit justice. On va tout simplement dès que la justice, c'est la force. La justice, c'est une idée artificielle imposée par certains hommes à d'autres. La justice, c'est simplement une loi imposée. Vous allez me dire, mais c'est une idée extraordinaire. Enfin, personne n'a jamais dit ça, c'est complètement absurde. Mais c'est pas vrai. Je vais vous donner quelques exemples. Calliclès, Trasimaque, Calvin, Bodin, Pascal, Machiavel, pour prendre quelques exemples. Calliclès, Trasimaque, c'est le plus évident. Vous connaissez les dialogues de Platon. Ce sont des sophistes qui vous disent il n'y a pas de justice. La justice n'est pas une idée naturelle, c'est une idée artificielle. Alors d'où elle vient? Eh bien, dit Calliclès, c'est bien des troisièmes, il y a de la force. Il y a un type qui est plus fort que d'autres, et puis ben là, la justice, c'est la loi du plus fort. Idée scandaleuse, peut-être, mais la continuer à défendre. Machiavel vous dit, qu'est-ce que c'est que le machiavélisme? C'est l'idée qui vous dit, oh, les hommes aiment bien la justice, ils voudraient bien, mais personne ne sait ce que c'est. Alors, il faut un prince, il faut un homme qui ait l'habileté de faire passer ses actes, de faire passer ses règlements, de faire passer ses gens, pour conforme à ce que les hommes croient en général être injustice, sans savoir de même qu'il s'agit. Il faut un condottier, il faut un prince, pas pour imposer. Au XVIe siècle, ça devient une doctrine. Clair et net, Jean Bodin vous dit, vous comprenez, il y a les catholiques d'un côté, il y a les protestants de l'autre, hein, et ils s'entretuent, le sang coule partout, ça fait des dizaines d'années que ça dure maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qui est-ce qui a raison? Les protestants, les catholiques, vous n'en savez rien. Aucune espèce d'importance, d'essentiel, c'est d'avoir la paix. Et comment faire la paix? En prenant une loi catholique, pas du tout les protestants vont... En prenant une loi protestante, pas du tout les catholiques vont riposter. La paix, elle est assurée par la présence d'un homme qui va dire le juste. Et d'une certaine manière, c'est toute l'idéologie démocratique aussi qui se profile ainsi. Parce que précisément, la volonté générale va dire ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est juste, ce qui est injuste. Hein? Et il n'est pas jusqu'aux catholiques... peu orthodoxe qu'est Pascal, qui ne vous dise dans les pensées, la justice, vous savez, c'est, vous connaissez peut-être, vous avez ces pensées célèbres, justice d'un côté de l'eau, injustice de l'autre, justice ici, n'est-ce pas, et injustice là-bas. Pascal vous dit, de toute manière, la justice, c'est pas une chose humaine. Alors la justice, c'est tout simplement, la convention locale, et la convention locale, l'important c'est qu'elle soit appuyée sur une capacité de punir, appuyée sur la force. Pascal fait l'apologie de la force pour avoir la paix. Et en l'occurrence, il fait l'apologie de la force parce qu'il était calviniste. Et le calvinisme conduit également à une même théorie de la justice. Vous voyez que c'est une idée qui a parcouru le monde, il est évident. philosophiquement ne tient pas. Il n'y a pas besoin d'en faire le procès. Il est évident que c'est purement simplement. Il est possible en effet que la force arrive à régner, mais alors à ce moment-là, si la force suffit à instaurer les relations entre les hommes, si les hommes sont, si vous voulez, suffisamment peu humains pour être menés par la schlag, ou par le knout, comme des animaux, c'est pareil, il n'y a plus qu'à plier. Deuxième hypothèse, qu'est-ce que c'est que la justice? Alors, je mentionne pour mémoire, il y a les gens qui vous disent la justice c'est le résultat d'une situation. Je veux dire, en un mot commençant, on va réapparaître les économistes. Je me souviens d'avoir une discussion avec un économiste fort connu contemporain, et je vous la retrace rapidement parce qu'elle est très instructive. Nous nous sommes battus parce que moi je lui disais, il y a un juste prix, vous comprenez, en économie. Et il me disait non, le juste prix c'est le prix du marché. Il n'y a pas de différence entre le marché et le prix de l'offre et de la demande. Et je disais ah non. Le prix de l'offre et de la demande, si vous persistez à dire que le juste prix c'est celui qui résulte de l'équilibre, vous êtes bon pour. C'était un économiste libéral naturellement, vous êtes bon pour le socialisme. Enfin, il n'a jamais compris, il a considéré que j'étais une espèce de passéiste, d'amoureux de société qui n'est révolue, et que décidément je n'étais pas bien fort. Mais pourtant, il est bien clair que l'exigence de justice ne peut être satisfaite par simplement l'idée que la justice, c'est ce qui résulte du rapport spontané des forces individuelles. Et c'est pourtant ce qu'affirme l'économie. Alors il y a une troisième théorie, la justice. Et ces deux premières sont critiquées par la troisième. Il est évident, l'échec des deux premières est tellement évident qu'apparaît la troisième, et vous la connaissez aussi. Qu'est-ce que c'est que la justice? On vous dit, mais la justice, oui, c'est très important. Très important, il faut une justice dans les relations humaines. Mais la justice, elle vient d'où? Puisque la justice, n'est-ce pas, c'est ce qui convient. C'est la justice, c'est ce que tous appellent de leur vœu. C'est que tous doivent avoir une idée de ce que c'est que la justice, et par conséquent, la justice, il n'y a qu'à leur demander à tous ce que c'est que la justice. Et la justice, c'est ce dont tous conviennent ensemble que cela est juste. La justice est une convention collective. La justice est le produit, et ça, alors, toute la philosophie des Lumières va la répéter. C'est la grande trouvaille. C'est la grande trouvaille du XVIIe et du XVIIIe siècle. Qu'est-ce que c'est que la justice? Personne n'en sait rien. Mais on pourrait peut-être se mettre d'accord sur ce qui est juste. Mettons-nous d'accord et la question est résolue. Nous voulons tous être traités justement. Eh bien, entendons-nous sur la manière dont nous voulons nous traiter les uns les autres. La justice, c'est le produit d'une convention passée entre tous les hommes, c'est le produit d'un contrat. Et tous les contractualistes vous disent, les hommes deviennent justes ou injustes en entrant en société. La justice n'existe pas avant la société. La justice n'existe qu'en société. Le problème paraît merveilleusement résolu. On a trouvé une justice qui satisfait tout le monde. Oui, seulement. Seulement en réalité, et là nous retombons sur une idée dont j'ai déjà parlé les jours passés, c'est toujours la même. En réalité, cette conception de la justice ne satisfait personne. Elle satisfait tout le monde sur le papier. Sur le papier, oui. Mais en réalité, elle ne satisfait personne. Parce que, si vous voulez, ou plutôt, elle évolue, elle se désagrège, elle se transforme elle-même en une conception de la justice qui ne satisfait personne. Pourquoi? Parce que la justice, dans ces conditions, ça consiste pour tout le monde à être traité justement, pas à être traité équitablement. Tout le monde veut être traité comme tout le monde, ou plutôt, à ce moment-là, il y a une ambiguïté considérable. La justice consiste-t-elle à ce que les égaux soient traités également, Mais les inégaux inégalement, ou est-ce que la justice consiste pour tous, quels qu'ils soient, à être traités de la même manière ? Est-il équitable de traiter de manière différentielle des gens qui sont différenciés, ou est-il équitable de traiter de la même manière n'importe qui, n'importe comment, dans n'importe quelle circonstance ? Est-ce que la justice est relative à ce que sont les individus, ou si vous préférez, est-ce que l'égalité est égalité entre égaux et inégalité entre inégaux, ou est-ce que la justice ou l'égalité consiste dans l'application mécanique et arithmétique, pas d'un traitement identique à tous les individus quels qu'ils sont ? Eh bien, il est bien évident, et là, il faudrait le montrer avec une grande. On peut le démontrer avec une précision mécanique, avec une précision d'horloge, n'est-ce pas ? Les thèses, enfin, pour moi, c'est très intéressant parce qu'il y a là une espèce de contradiction qui se démontre. Mais il est bien évident, pour aller vite, qu'à partir du moment où la justice est une chose conventionnelle, à partir du moment où la justice est définie par convention entre les individus, il est évident qu'elle ne peut pas ne pas finir par se définir tout simplement comme une égalité radicale entre tous les individus, puisque précisément elle n'existe que dans la mesure où tous les individus en conviennent ensemble. La justice qui suppose le contrat suppose l'égalité des contractants, et supposant l'égalité des contractants, elle ne peut pas ne pas aboutir à faire qu'il considère que seul est juste un traitement appliqué également à tous les hommes, dans quelles que soient leurs circonstances ou leur inégalité éventuelle. Autrement dit, si vous voulez, cela signifie que la justice n'est jamais envisagée, et alors là il faudrait revenir au dialogue de Platon, la véritable justice selon Platon, c'était le fait de ne pas vouloir nuire à autrui. Dans la conception moderne et contractuelle de la justice, s'agit-il de ne pas vouloir nuire à autrui ? Pas du tout. Il s'agit de ne pas être traité différemment d'autrui. Vous avez en réalité deux conceptions antithétiques de la justice. Ce n'est pas du tout la même chose. Dans un cas, être juste, c'est, si vous voulez, vouloir le bien d'autrui, d'une certaine manière. Dans l'autre, c'est vouloir son bien propre. La justice des modernes ne consiste pas dans un intérêt porté à autrui, dans un intérêt porté à soi-même. Autrement dit, cette justice, si vous voulez, est tout à fait indifférente finalement au sort d'autrui et tout à fait indifférente à la justice à rendre à autrui. Le vrai principe de la justice n'est pas le vieux, n'est-ce pas, Néminem l'a aidé, n'est pas ne nuit à personne. Mais le principe moderne de la justice, c'est ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'autrui te fasse. C'est-à-dire, en réalité, c'est une attitude intéressée et fondamentalement injuste. Et le fait que cette justice, n'est-ce pas, soit précisément utilitaire, le fait que cette justice soit à usage essentiellement et d'abord personnel, enfin, comme disait Rousseau, il n'est personne dans une société qui, démocratique qui, en ne votant, ne songe d'abord à lui-même. Le fait que cette société soit utilitaire et intéressée consacre en réalité la vacuité de cette idée de justice. Et c'est pourquoi d'ailleurs, et là nous retrouvons les propos d'hier soir, nos sociétés qui n'ont que la liberté et la justice à la bouche sont en réalité des sociétés profondément indifférentes à la justice. Ce sont des sociétés dans lesquelles, justement, la justice n'est pratiquée spontanément par personne. Ce sont des sociétés dans lesquelles les individus sont de plus en plus, au fond, fermés à l'équité. Et où, précisément, les situations les plus injustes se développent le plus facilement. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, ce n'est pas cette justice-là qui peut servir de fondement à la légitimation du pouvoir politique. Ce pouvoir, le pouvoir politique peut se parer des plumes de la justice, mais pas de sa réalité. Il s'agit de trouver un pouvoir qui soit juste. Ce n'est pas dans cette justice qu'il peut se fonder, pas pour dire que, parce que, au fond, tout le monde sait très bien ce qu'il en est. Tout le monde sait très bien que cette réciprocité, que c'est la réciprocité qui est le fondement, pas de la, qui est le ciment de cette société. Tout le monde sait bien que c'est l'intérêt personnel. Quand un homme politique vous dit, on va réaliser la justice, tout le monde, au fond, sait très bien que c'est un discours politique. Et qu'il ne peut pas, en réalité, vouloir la justice qu'il proclame vouloir défendre. Tout le monde le sait, et c'est pour ça qu'en réalité, les hommes politiques sont si peu crus. C'est pourquoi que leurs discours sont si creux, et c'est pourquoi ils ont si peu d'écho. Parce qu'en réalité, au fond d'eux-mêmes, au fond de soi, personne n'est dupe. Alors, eh bien, il faut en arriver par conséquent à une meilleure définition de la justice. Le pouvoir est inévitable, la justice aussi. Alors où est-elle? Où est-elle la justice? Eh bien, voyez-vous, et là, je pense que peut-être on aurait pu intervertir l'ordre des conférences, parce que nous allons retrouver, mais je vais le creuser un peu plus, des idées qui auraient été en fait nécessaires pour le traitement du problème du fédéralisme. Et en réalité, la solution, elle est sous nos yeux. Et elle peut se... Pourquoi faut-il que la... d'une manière ironique et amusante, c'est la démocratie elle-même qui nous montre le chemin. C'est l'idéologie démocratique elle-même qui donne un indice de ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que la démocratie, c'est un système qui idéalement veut éliminer le pouvoir. Mais en même temps, c'est un système qui... C'est le problème de Rousseau, c'est la constitution d'une volonté générale, c'est une idéologie qui cherche à construire un pouvoir quand même, puisqu'elle se rend compte qu'il en faut bien. Donc, c'est une société c'est une idéologie qui se méfie du pouvoir. Et qui se méfie du pouvoir parce que elle pense que le pouvoir ne peut appartenir légitimement à aucun homme. La démocratie ne veut pas du pouvoir politique parce qu'elle pense que dans les mains d'un homme, il est nécessairement mauvais. Parce qu'elle pense que un homme qui dispose d'un pouvoir est, comme le disait déjà Platon, un homme nécessairement méchant. Tout homme puissant, disait Platon, est nécessairement méchant. Et c'est profondément vrai. La démocratie a une idée là qui est une idée parfaitement classique, contrairement aux apparences. Le pouvoir est une chose trop dangereuse pour appartenir à un homme. C'est la vieille tradition occidentale et la démocratie retrouve cette idée. Alors où est-ce qu'elle se trompe? Ben, vous l'avez compris. Ayant affirmé comme Platon, comme saint Thomas, comme n'importe quel philosophe de la tradition classique, ayant affirmé que le pouvoir était mauvais entre les mains d'un homme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le donne à tous. Elle pense que le pouvoir va changer de sens simplement en étant retiré des mains d'un seul homme pour être confié théoriquement à la collectivité. Elle pense que le pouvoir devenu collectif va cesser d'être mauvais. Et c'est là l'erreur. Le pouvoir qui est mauvais entre les mains d'un homme est mauvais entre les mains d'une collectivité parce qu'elle est humaine. Le pouvoir est mauvais aussi bien entre les mains de plusieurs hommes qu'entre les mains d'un seul parce que ce sont tous des hommes. Et vous avez ainsi la solution. Où est le pouvoir juste? Où est le pouvoir? Il n'y a aucune raison, n'est-ce pas, que le pouvoir ait changé de nature quand on multiplie ses détenteurs. C'est ça l'illusion démocratique. C'est que le pouvoir a changé de nature simplement parce qu'on en a multiplier à l'infini les détenteurs théoriques. Et c'est d'ailleurs totalement absurde que, bien entendu, cette détention théorique reste purement théorique. Bon. Par conséquent, ben si le pouvoir juste ne peut être exercé par des hommes, il n'y a de pouvoir juste qu'exercé par des agents qui ne soient pas purement humains. Il n'y a de pouvoir juste qu'à partir du moment où il est manié par des agents, que je voudrais définir maintenant, justement, par des agents qui ne soient pas condamnés à la condition purement humaine. Alors, est-ce que ça veut dire que les hommes doivent être gouvernés par des dieux? C'est la théocratie. Eh bien, bien entendu, non. Car ce qu'on ne voit pas, il y a le peuple juif a été un peuple gouverné directement par Dieu. C'est même le seul. C'est la preuve d'un orgueil qui est aussi d'ailleurs d'une certaine manière l'orgueil démocratique même. Il ne s'agit pas un instant de dire qu'il faut des dieux pour gouverner les hommes, parce que précisément, on peut réfuter, si vous voulez, la théocratie au sens rigoureux du terme dans quelques mots, parce que imaginer que des hommes puissent être gouvernés par des dieux, c'est imaginer qu'ils puissent entendre et obéir spontanément à la voix de Dieu. C'est-à-dire, c'est imaginer qu'ils sont en communication immédiate avec quelque chose qui n'est pas purement humain. Et à ce moment-là, c'est résoudre le problème, c'est fini. Si les hommes sont des saints, si les hommes vivent déjà dans au-delà du monde humain, la question est réglée. Mais précisément, la question n'est pas là. Les hommes sont appelés, et rappelez-vous notre point de départ, les hommes sont appelés à la société, mais ils y résistent. Alors, une théocratie, c'est ou bien une société composée de marionnettes, ce qui était le cas du peuple juif, qui sont dans la main de Dieu, ou si vous voulez, pour prendre un autre exemple, la théologie arabe, la théologie musulmane plus exactement, pardon, la théologie musulmane du même ordre. Les hommes ne font rien que Allah n'ait voulu. Alors, ou bien les hommes sont des marionnettes, ou bien ils sont parfaits. Ils sont spontanément, on vit déjà dans le royaume de Dieu, quel qu'il soit en l'occurrence. C'est pas la question. La question, c'est un problème politique. C'est qu'on a affaire à des hommes qui veulent vivre en société, mais qui résistent à cette société, qui sont hommes, un peu plus qu'homme, mais en même temps quand même homme. Alors, vous comprenez la solution, il ne s'agit pas une seconde, de défendre l'idée théocratique. Il s'agit de quoi, alors? Il s'agit simplement de dire qu'une société humaine ne peut fonctionner que si elle comporte dans son sein des hommes qui, soit des hommes et pas des dieux, mais qui, par une partie d'eux-mêmes, soient plus que des hommes, c'est-à-dire par des hommes qui ont d'une certaine manière accès à quelque chose qui soit plus qu'humain. Ou si vous préférez, je vais prendre un langage à la fois philosophique et théologique. Dans le langage philosophique, je dirais que une société bien ordonnée est une société qui doit être gouvernée par des hommes capables de savoir, au-delà de l'humain, ce qui est le modèle de toute humanité. C'est le philosophe roi de Platon. Le philosophe roi de Platon, c'est un homme qui est un homme, mais qui est en même temps plus qu'homme, parce que par son savoir, il accède à une réalité surhumaine. Et le langage chrétien va retrouver, amplifier cette image, et au contraire, accentuer de manière plus frappante peut-être encore que Platon. Parce que chez Platon, au fond, finalement, il y a une césure entre les hommes et les philosophes, et les philosophes rois, n'est-ce pas? Alors que le christianisme va, au fond, permettre une continuité plus humaine, la doctrine chrétienne va affirmer qu'il y a dans toute société ordonnée des hommes qui disposent d'un savoir qui n'est pas humain, qui ne peut pas être humain, parce que sinon on retombe dans la case précédente. On retombe dans la problématique présente. Ce savoir ne peut pas être humain, et par conséquent, en quoi consiste-t-il? Eh bien, j'arrive, me semble-t-il, philosophiquement, rationnellement, à une idée théologique. Un savoir qui ne peut pas être élaboré de manière humaine, mais qui est pourtant à la disposition des hommes, ou du moins de certains, c'est ce qu'on appelle une révélation. Et j'en arrive à cette idée que toute société humaine ordonnée suppose comme son fondement et sa condition de possibilité l'existence d'un savoir révélé dont certains hommes soient les gardiens. Il me semble avoir défini l'existence, la nécessité d'un pouvoir spirituel. Qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas, qu'un pouvoir spirituel, sinon précisément un pouvoir exercé au nom d'un savoir qui n'est pas un savoir humain, mais qui est un, par définition, qui ne peut être élaboré par des hommes, qui ne peut pas être démocratique, si vous voulez, et qui par conséquent vient d'ailleurs. Je veux dire que je retrouve ainsi, non pas une idée extraordinaire, mais une idée qui a été celle de toute la philosophie depuis 24 siècles, et qui a été celle, j'ajouterais même, spontanément vécue par toutes les populations primitives telles que les ethnologues ou les ethnographes les écrivent. Une des idées de la tradition occidentale les plus fortes, c'est que tout pouvoir comporte quelque chose de sacré. C'est qu'il y a dans le pouvoir que les hommes, il ne peut pas y avoir de pouvoir des hommes les uns sur les autres sans que celui qui détient ce pouvoir soit en quelque manière investi d'une sacralité qui le tire, qui lui fait dépasser l'ordre de l'humain. Les chefs de toutes les sociétés primitives sont des prêtres. Le pouvoir est toujours sacré. Alors, simplement, je voudrais préciser deux choses. Alors, pourquoi un pouvoir spirituel? Vous avez compris la genèse, la nécessité de ce pouvoir spirituel. Je voudrais ajouter deux grandes idées. Je me dépêche pour en finir, j'aurais parlé un peu trop longtemps. Première idée, on va dire, et mes bons collègues universitaires se précipiteraient comme des vautours pour dire, c'est grotesque, une révélation, vous vous rendez compte, c'est trop facile. C'est vraiment trop facile. Un savoir révélé, oui, ça prend un Platon ou un prêtre catholique pour énoncer de telles âneries. Un pouvoir de révélation, qu'est-ce que ça signifie? Bon, c'est tous les charlatans ont invoqué des révélations. Eh bien, je répondrai aussi bien pour défendre Platon que pour défendre un prêtre catholique que le contenu de cette révélation, me semble-t-il, ou au moins envisagé du point de vue qui est le mien, c'est-à-dire du point de vue philosophique, le contenu de ce travail, il n'est pas très compliqué, en réalité. Et il me semble que je peux interpréter, j'interprétais, et prenons par exemple le message de la révélation catholique, en termes philosophiques, ça consiste en quoi le message du Christ? Aimez-vous les uns les autres? Aimez-vous? Eh bien, quel est philosophiquement le contenu, avant même de toute élaboration théologique? La formule a une signification philosophique. Elle dit « faites ce qu'il n'est pas de l'humain au sens le plus banal de faire, ce qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme en tant que tel de faire. Il n'est pas au pouvoir de la créature humaine d'aimer spontanément ses semblables. Elle s'aime d'abord elle-même. » Le message « aimez-vous les uns les autres », il est quoi en termes philosophiques? Il consiste en quoi philosophiquement? Ben, il consiste à dire d'abord et avant tout et seulement « détachez-vous de votre propre condition ». C'est un message de distance, c'est un message de détachement par rapport à soi. Ce qui fait que certains hommes sont habilités à exercer ce pouvoir spirituel, c'est précisément que ces hommes sont détachés du monde. Ce qui constitue la preuve qu'ils ont eu une révélation, qu'ils ont accédé à un niveau plus qu'humain, c'est qu'ils ont montré qu'ils étaient capables de se détacher du monde. Aussi bien le contenu de la révélation que la désignation de ceux qui sont habilités à exercer ce pouvoir, tous ces problèmes apparemment très compliqués ont aussi une solution très simple. C'est en réalité, tous ces problèmes se résolvent dès l'instant qu'on comprend que le fond, quel que soit le contenu ultérieur du message, son principe, c'est un principe de détachement à l'égard de ce qui est trop humain dans l'humain.
Alors il me reste à conclure, je vais passer très vite parce qu'on pourrait le développer longtemps, il me reste à conclure par quelques caractéristiques majeures de ce pouvoir spirituel, du pouvoir exercé par des hommes qui ont une capacité d'être plus qu'hommes et qui, ce qui veut dire tout simplement, qui ont montré leur capacité à se détacher de la condition humaine, classique, banale.
Je mentionnerai, si vous voulez, trois caractères qui me paraissent fondamentaux. Premier caractère, ce pouvoir est un pouvoir. Il s'agit de faire plier. Il faut qu'il y ait un pouvoir. Ne confondons pas le pouvoir spirituel avec, comme on le fait de nos jours, on n'arrête pas d'invoquer le spirituel. Tenez, le personnalisme dont nous parlions hier, voilà, on invoque le spirituel. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de s'adresser à la conscience des individus. Il ne s'agit pas que le pouvoir spirituel se borne à... Le pouvoir spirituel n'est pas constitué par on ne sait quel vague appel qui plus ou moins agirait à l'intérieur de la conscience. Mais pas du tout. Il s'agit d'un pouvoir réel. Il s'agit d'un pouvoir qui soit constitué en pouvoir et non pas en simple appel. C'est un pouvoir qui doit disposer d'une certaine capacité de contrainte. On a à faire plier des rebelles à l'ordre. C'est un pouvoir qui est un pouvoir comme le pouvoir temporel en est un. Mais dans son ordre. D'où la deuxième idée. C'est un pouvoir, et c'est pourquoi là aussi il y a une deuxième confusion possible, qui consisterait à dire, mais enfin, au fond, puisque ce pouvoir est nécessaire dans la société, pourquoi il n'est pas seul? Pourquoi n'y aurait-il pas uniquement un pouvoir temporel, un pouvoir spirituel? Pourquoi faut-il aussi un pouvoir temporel? Et, si vous voulez, l'apologie que j'ai faite du pouvoir spirituel ne va pas sans la considération d'un deuxième principe qui est la distinction du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. La grande trouvaille de l'Occident, c'est précisément la trouvaille de la dualité des pouvoirs. Et c'est peut-être d'ailleurs une faiblesse de l'Antiquité de n'avoir pas compris tout à fait ce principe de la dualité des pouvoirs. Or, pourquoi deux pouvoirs? Et c'est précisément la petite faille intellectuelle qui est dans le concept de philosophe Roy. Pourquoi faut-il deux pouvoirs et pas un seul?
Pour une raison d'une certaine manière élémentaire. Parce que précisément la force du pouvoir spirituel, c'est tout bête d'une certaine manière, ça paraît une lapalissade, ça paraît une tautologie, ça n'en est pas une. La force du pouvoir spirituel, c'est qu'il n'est pas un pouvoir temporel. Si le pouvoir spirituel assumait, c'est une idée très simple et très difficile. C'est très difficile, mais c'est... Si le pouvoir spirituel assumait des fonctions temporelles, s'il y avait confusion des pouvoirs, il est bien évident que le pouvoir spirituel, à moyen terme, à court, moyen ou long terme, ne pourrait pas ne pas manquer d'être confondu avec un pouvoir purement temporel. Et on reviendrait à la case départ. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un pouvoir qui porte sur l'humain, mais qui ne soit pas humain. Sa force tient
à son détachement du monde. La force de ce pouvoir tient à ce qu'il est d'une certaine manière un pouvoir, mais un pouvoir impuissant selon les modalités habituelles de la puissance du pouvoir temporel. C'est un pouvoir dont la puissance n'est pas de l'ordre de la puissance temporelle. Autrement dit, la grande invention, le coup de génie de la chrétienté, c'est d'avoir, et il faut reconnaître des hommes très curieusement, un homme comme Auguste Comte l'avait très bien reconnu. Le coup de génie de la chrétienté, c'est d'avoir distingué le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. C'est d'avoir fait en sorte que le pouvoir suprême soit un pouvoir d'homme qui n'ait aucun pouvoir temporel d'une certaine manière, mais qui ne laisse pas, comme tel, d'avoir un pouvoir, mais d'un autre ordre. La distinction entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel est une des idées les plus difficiles de la doctrine, et c'est pourtant une des idées les plus cruciales. Il ne peut exister de société viable que s'il existe un pouvoir juste. Ce pouvoir juste est un pouvoir spirituel. Ce pouvoir spirituel ne prend pas la place d'un pouvoir temporel, mais se superpose à lui et s'organise par rapport à lui, et c'est ça qui fait que le système marche.
J'ajoute, évidemment, au cas où l'idée, parce que la confusion est trop facile,
distinction ne veut pas dire séparation. Et c'est ça mon troisième point, troisième caractéristique de ce pouvoir nécessaire au fonctionnement de toute société humaine. Ce pouvoir spirituel, ce pouvoir de justice par excellence, est un pouvoir qui n'abroge pas le pouvoir temporel, qui ne tend pas à prendre sa place, sinon par erreur. Mais c'est un pouvoir qui, en même temps, ne délaisse pas le temporel. Distinction ne veut pas dire séparation. Et là encore, troisième idée, très difficile aussi. C'est un pouvoir dont la force réside dans le fait qu'il n'est pas intéressé par le temporel comme tel. C'est pour ça qu'il peut être juste. La justice consiste dans la possibilité de voir les choses d'une manière non humaine. Mais cette distinction ne doit pas être comprise, ce qui est l'erreur classique du monde moderne, comme une séparation.
Vous auriez d'un côté le monde spirituel, pensez ce que vous voulez, croyez ce que vous voulez, ça vous regarde, l'essentiel c'est que ça ne se voit pas à l'extérieur. C'est le principe de la tolérance. Eh bien, confusion. La distinction n'est pas séparation. Le pouvoir spirituel s'intéresse par nature, mais à sa manière, au monde temporel, pour la raison à la fois élémentaire et très difficile à comprendre. Ça demande des volumes entiers, et toute la prédication chrétienne depuis saint Paul a essayé de faire comprendre cette idée élémentaire et pourtant horriblement difficile, que c'est le même homme qui vit temporellement et qui est appelé à vivre spirituellement. Et par conséquent, le pouvoir spirituel qui le fait se dépasser ne peut pas ne pas s'intéresser à un temporel que pourtant, d'une certaine manière, il est fait pour dépasser. C'est la prédication de saint Paul. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, parce que précisément, les deux hommes sont distincts sans pourtant cesser d'être un.